à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Duménil-Copin, je suis professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques et je suis lauréat du Grand Prix Jacques Herbrand de mathématiques. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon domaine de recherche. Alors, mon cœur a toujours balancé étant petit entre la physique et les mathématiques. Et c'est pas tout à fait un hasard si du coup je me suis retrouvé aujourd'hui à faire ce qu'on appelle de la physique mathématique, les deux ensemble justement, c'est-à-dire l'étude mathématique de phénomènes physiques. Plus particulièrement, en fait, je m'intéresse à ce qu'on appelle la modélisation aléatoire de transition de phase. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transition de phase ? Commençons peut-être par ça. Vous connaissez des transitions de phase, ce sont des changements brusques de comportement quand vous variez les paramètres d'un système physique. Alors, vous en avez une vraiment en tête, c'est le changement d'état, par exemple, entre l'eau et la glace. Donc, c'est la solidification qui arrive à 0 degré. Quand vous bougez continuellement la température de l'eau, vous vous retrouvez exactement à 0 degré d'un coup avec de la glace. Et ça change complètement le comportement de votre système. Par exemple, si vous prenez la masse de votre eau, elle ne change pas. Par contre, le volume de l'eau est plus faible que le volume de la glace. C'est quelque chose que vous pouvez facilement vérifier quand vous mettez une bouteille au congélateur qui, quand elle va justement se transformer en glace, va exploser parce que la glace prend à peu près 10% de plus de place que l'eau. Donc il y a une discontinuité dans ce qu'on appelle le volume massique alors qu'on a bougé continuellement la température. Ça, c'est un changement d'état, c'est une transition de phase. Vous en connaissez une autre avec la vaporisation, bien entendu, où là, c'est carrément un facteur 1600 dans le volume massique. Et c'est ce changement de volume entre la vapeur et l'eau, et ce qui est par exemple à la base des moteurs à vapeur. Alors moi, je ne m'intéresse pas du tout au changement d'état de l'eau, ce n'est pas la transition de phase qui m'intéresse, mais il y a beaucoup d'autres transitions de phase dans la nature, et en particulier, l'un de nos plus ingénieux scientifiques, Pierre Curie, découvrit en 1895 que quand on chauffe un aimant, au-dessus d'une certaine température, qui aujourd'hui porte son nom, c'est la température de Curie, cet aimant cesse d'être un aimant, il cesse d'être attiré par le nord. Donc ça aussi, c'est une transition de phase, il y a un changement à une certaine température, on arrête d'être un aimant. Et l'un de mes sujets d'étude, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a une transition de phase comme ça entre ce qu'on appelle un ferro-aimant et un para-aimant. Alors, pour étudier ça, je modélise, je vais, si vous voulez, travailler sur une caricature mathématique de cet aimant physique. Et cette caricature mathématique, on la doit à Wilhelm Lenz, qui est un physicien allemand du début du XXe siècle, qui suggéra à son étudiant Ising de modéliser un aimant en imaginant qu'il est fait de plein de petits dipôles magnétiques, comme des tout petits aimants, qui pointeraient soit vers le nord ou vers le sud, et que ces aimants, ils ont envie de s'aligner entre eux, comme vous avez l'habitude de voir avec des aimants. Souvent, si on prend deux aimants, le pôle nord d'un des aimants va être attiré par le pôle sud de l'autre. Donc là, ce sera la même chose pour ces tout petits dipôles. Mais ces petits dipôles, ils sont excités par la température, en quelque sorte. Et plus la température est haute, plus ils sont excités par la température. Plus la température est basse, moins ils sont excités. Et l'idée, c'était d'essayer d'expliquer pourquoi, au-dessus d'un certain degré d'excitation, le fait de vouloir être aligné n'est plus si important que ça pour ces petits dipôles, et du coup le gros aimant cesse d'être un aimant. Voilà, donc le résultat principal que j'ai obtenu dans ce domaine, donc c'est un domaine, vous voyez, qui a plus d'un siècle de vie, qui est un domaine très 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 actif. Il y a des milliers d'articles sur ce fameux modèle d'Ising. Moi, ce que j'ai fait sur ce modèle, c'est que j'ai démontré qu'en dimension 3, c'était d'ailleurs avec deux chercheurs qui résident un petit peu aux quatre coins du monde. Donc il y en a un qui était un chercheur de Princeton, Michael Eisenman, et un autre qui est un chercheur de NYU Shanghai, qui s'appelle Vlada Sidoravicius. Ce qu'on a montré, c'est que la transition de phase est ce qu'on appelle continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Rappelez-vous, tout à l'heure, quand j'ai parlé du changement d'état, j'ai dit, bon, bah, le volume massique de l'eau est discontinu, en quelque sorte, à 0 degré. Ça passe d'une certaine, un certain volume massique à peu près 10% de plus. C'est discontinu, directement, on passe, il y a comme un escalier, on passe hop, par une marche à 10% de plus. Ben, on peut se demander pour les aimants si notre aimant, ben, c'est un bon aimant. Est-ce qu'au point critique, boum, il cesse totalement d'être un aimant ? Ou si au contraire, cet aimant, il devient de plus en plus mauvais, en quelque sorte, il est de moins en moins attiré par le nord et de façon continue arrive au point critique à finalement ne plus être attiré du tout par le nord. Et ce qu'on a montré, c'est que c'est cette deuxième solution, ce qu'on appelle une transition de phase continue, qui a lieu dans les cas de ferromagnétisme et dans le modèle d'Ising. Voilà, donc ça, c'était quelque chose dont on était très content, parce qu'en fait, la dimension 3, qui est la dimension physique de notre monde, est souvent la dimension la plus difficile à étudier mathématiquement. Donc c'est un petit peu l'ironie de l'histoire, mais en même temps, c'est pas si surprenant que ça. La dimension la plus importante et la dimension la plus difficile. Alors, je ne m'intéresse pas seulement au phénomène de ferromagnétisme, je m'intéresse également à, par exemple, des modèles pour essayer d'expliquer ce qu'on appelle le comportement des polymères. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un polymère ? C'est une macromolécule qui est faite de beaucoup de sous-constituants. Vous avez des exemples, les protéines, les plastiques, tout ça, ce sont des polymères. L'ADN, c'est un polymère qui est fait de plein de nucléosides. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut comprendre comment un polymère se place dans un solvant ? Comment il s'équilibre dans l'espace ? Est-ce qu'il est tout rabougri, tout recroquevillé sur lui-même ? Est-ce qu'il s'allonge énormément, etc. Quelle est la géométrie typique d'un polymère ? C'est une question qui est très difficile en général, mais Paul Flory, qui est un chimiste, donc vous voyez qu'on est vraiment à l'interface entre un bon nombre de domaines. Paul Flory, qui est un chimiste, d'ailleurs prix Nobel de chimie en 1974, proposa en 1953 un modèle pour essayer d'expliquer comment les polymères se positionnent, mais d'expliquer pour les polymères, des polymères qui sont un peu idéaux en quelque sorte, dans le sens qu'ils sont modélisés de la façon suivante, c'est juste des constituants accrochés les uns aux autres. Et la seule condition sur ces constituants, c'est que deux constituants ne peuvent pas être au même endroit. Bon, ça, c'est un peu évident. Si j'ai une molécule ici, je n'ai pas envie d'en avoir une deuxième exactement au même endroit. Et ces constituants doivent faire une longue chaîne. Donc, ils doivent quand même être, si vous voulez, voisins deux à deux pour créer notre polymère. Donc, Paul Flory proposa un modèle pour ça, qui est le modèle suivant. Et vous allez comprendre l'idée de caricature. Imaginez que vous êtes dans votre cuisine et que vous avez une cuisine dont le carrelage est fait de petits hexagones. Voilà, ça arrive dans certaines cuisines. Paul Flory a dit, mon polymère, je vais l'expliquer comme ça, ça va être l'objet suivant. Les molécules, les constituants de mon polymère seront en fait au coin des hexagones. Et mon polymère est une suite de constituants, donc ce sera une suite d'hexagones, de coins d'hexagones, excusez-moi, qui s'avoisinent les uns aux autres. Donc le premier hexagone est quelque part, le premier constituant est quelque part, le deuxième est sur un sommet adjacent, dans le sens que je peux y aller par une arête d'un hexagone, le troisième constituant est adjacent au deuxième, etc., etc. J'ai ce qu'on appelle une marche auto-évitante quand je fais ça. Et puis, vous pouvez vous poser la question, c'est la question que Paul Flory s'est posée. Disons, si je vous demande, par exemple, combien y a-t-il de polymères de longueur 10, c'est-à-dire contenant 10 constituants, vous pouvez essayer de compter ça, vous pouvez essayer de dénombrer. Vous vous rendrez compte assez facilement, c'est même un calcul que vous pouvez essayer de faire sur un dessin. Vous regardez le nombre de trajectoires comme ça que je peux dessiner en suivant les arêtes de ce réseau hexagonal, ce carrelage en termes d'hexagone. Bon, bah, combien je peux dessiner de trajectoires différentes de longueur 10, partant d'un point. Et vous vous rendrez assez vite compte qu'il y en a beaucoup quand même, il y en a déjà plus d'un millier. Bon, si vous essayez, vous aviez beaucoup plus de temps, vous pourriez essayer de dénombrer les nombres de marches auto-évitantes de longueur 15. Là, c'est déjà beaucoup plus dur, il y en a beaucoup plus, il y en a plusieurs millions. Et puis, vous pouvez continuer comme ça. Si vous avez des ordinateurs, si vous êtes par exemple très bon en modélisation, vous pouvez vraiment demander à l'ordinateur de faire les calculs, il les fera beaucoup plus vite que vous. Et vous pouvez arriver à dénombrer les nombres de marches auto-évitantes de longueur 30, 40, 50, etc. On arrive aujourd'hui, avec les meilleurs ordinateurs et avec des algorithmes très intelligents, à dénombrer à peu près les marches de longueur 100. Le problème, c'est que nous, nos polymères, les polymères typiques, ont énormément de sous-constituants, beaucoup plus que 100. Donc ce qu'on aimerait, c'est avoir une formule mathématique qui puisse donner le nombre de marches auto-évitantes de longueur n, où n serait arbitraire. Ça pourrait être 10 000, ça pourrait être 100 000, ça pourrait être 1 milliard, etc. Alors ça, c'est une question qui est beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas une question qu'on peut répondre algorithmiquement. On ne peut pas dire « bon bah, je vais calculer celle de longueur 100, 101, 102, 103, etc. » Parce qu'à un moment, il faudra toujours, pour n'importe quel entier, il y a un entier plus grand. Donc je ne pourrai jamais, comme ça, en juste comptant bêtement, entre guillemets, tomber sur une formule qui marcherait pour tous les nombres. Donc il faut là faire appel aux mathématiques pour essayer de trouver une formule générale. Et c'est ce que nous avons fait avec Stanislas Smirnov, qui a reçu la médaille Fields en 2010. Nous avons en fait démontré que le nombre de marches auto-évitantes sur ce réseau hexagonal se comporte comme à peu près 1,84 à la puissance n. Donc si vous me dites que vous voulez calculer pour n égale 100, je vais faire le calcul 1,84 à la puissance 100. Si c'est 10 000, je ferai 1,84 à la puissance 10 000. Donc nous avons une estimée comme ça, relativement bonne, je dirais même très bonne, du nombre de marches auto-évitantes de longueur n. En fait, le 1,84, c'est plus précis que ça, c'est en fait racine de 2 plus racine de 2. On montre que c'est la vitesse de croissance, si vous voulez, de ces marches auto-évitantes. Et ce résultat, il est intéressant déjà parce que c'est un résultat relativement élégant et simple, en fait. Mais il est aussi intéressant parce qu'il a beaucoup d'importance pour comprendre justement le positionnement de ces polymères idéaux. Et ça, c'est le sujet de ma recherche actuelle, d'essayer d'aller plus loin, de partir de ce calcul pour pouvoir comprendre la géométrie de ces objets. Et pour la petite histoire, on peut toujours se demander qu'est-ce qui amènerait un mathématicien à faire ce qu'il fait. Moi, ce problème justement du nombre de marches auto-évitantes sur le réseau hexagonal, c'est un problème dont j'ai entendu parler quand j'étais relativement jeune, en fait, pendant mes études. À l'époque, c'était donc une conjecture, dans le sens que c'était un résultat qui n'avait pas encore été démontré. C'est une conjecture par un physicien, qui l'a faite en 1980, Bernard Ninhaus, à une époque où j'étais pas encore né. Et cette conjecture, elle est en fait très simple à énoncer pour un mathématicien. Il faut avoir un petit peu d'entraînement, ou un physicien. Mais du coup, quand on m'en a parlé la première fois, j'ai compris la conjecture. J'ai compris ce qu'il fallait essayer de démontrer. J'ai essayé et puis j'avais aucune idée de comment résoudre cette chose-là, comme beaucoup de gens apparemment avant nous. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'aller plus loin dans ce domaine de la physique statistique. C'est cette espèce de mystère qui entourait cette conjecture que finalement nous avons résolue en 2010. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.